Une bonne nouvelle d'après Jean, lecture suivie de l'évangile de Saint Jean, dans une traduction transposition de Vincent-Paul Toccoli, salésien de Don Bosco.
Il se passe donc toujours quelque chose à Béthanie. Il se passe beaucoup de choses dans certains endroits. La question que j'ai envie de vous poser à vous, chers auditeurs, qui êtes dans votre voiture ou devant votre poste à la maison, qu'est-ce qui se passe chez vous dans un certain endroit? Y a-t-il un endroit, y a-t-il un lieu privilégié où des choses se passent? Dans l'évangile de Jean, à ce moment même de la fin de la vie publique de Jésus et du début de sa poursuite, sa filature, son arrestation, sa condamnation, sa mise à mort et sa résurrection, il se passe quelque chose à Béthanie. Béthanie, ça veut dire la maison des pauvres, comme Bethléem veut dire la maison du pain. Il se passe quelque chose dans la maison des pauvres. De quels pauvres? Voyez bien, ce n'est pas des pauvres qui manquent de tout. Lazare, Marthe, Marie, maison, peuvent inviter comme ça au pied levé une dizaine de personnes peut-être. N'oubliez pas que Jésus ne se déplace jamais tout seul. Et qu'inviter Jésus, c'est inviter 13 personnes, 12 plus lui. Et pas des gens qui reniclent et renaclent à manger. Surtout s'ils sont sur les routes. Quand ces gens-là s'assoient à table, vaut mieux pas leur promettre beaucoup de choses. Un repas avec Jésus, ça peut vous désargenter pour un certain temps. Mais enfin, il est vrai que là, Lazare a été ramené à la vie. Une fête. Et dans cette fête, donc, une autre révélation. D'une certaine façon, avez-vous remarqué, chers auditeurs, combien le fait que Marie ne soit pas comprise et que les autres aient été aveugles envers elle correspond exactement à ce qui s'est passé avec l'aveugle né bien avant et que les autres ne comprennent pas et ne veulent pas comprendre. On peut être aveugle et aveuglé. Qui est l'aveugle? Qui est aveuglé? La dynamique de la foi se joue dans un perpétuel désaveuglement qui consiste, si on est aveugle, à ne pas pouvoir voir ce qui se passe. Parce qu'on veut qu'il se passe quelque chose, ou on veut que ça se passe comme ça. Alors que les choses, nous le savons bien, dans la vie courante, ne se passent jamais comme on les a prévues. Mais quand même, il y a cette espèce de paranoïa oculaire qui veut que les choses soient faites comme ceci et pas comme cela. Jésus, à ce niveau-là, est tout à fait révolutionnaire. Puisqu'il surprend toujours, et c'est là où on ne l'attend pas qu'il vient, et c'est quand on ne l'attend pas qu'il vient, et c'est en faisant ce qu'on n'attend pas qu'il fait. Moi, ce Jésus-là, s'il n'existait pas, je crois que je ne serais pas chrétien, je crois que je ne serais pas croyant. La routine, la répétition, c'est mortel. Si ça devait durer toute l'éternité, ce serait la mort éternelle.
Le lendemain, tout ce monde avide de sensationnel à l'occasion de la fête apprit que Jésus se rendrait finalement à Jérusalem. Les premiers rayons roses du soleil printanier n'avaient pas encore caressé les tombeaux monumentaux de la vallée du Cédron, que déjà un peuple immense se rendait à sa rencontre. Ils avaient arraché des branches de palmiers et les secouaient en criant à tue-tête « Hosanna, sauve-nous ! Que le Seigneur bénisse le roi d'Israël !» Sur le chemin en pente qui va de Béthanie à la capitale, Jésus trouva un ânon et tout simplement il s'assit dessus. Et tout le monde se souvint du prophète Zacharie qui écrivait « N'aie pas peur, fille de Sion, voici venir ton roi monté sur le petit d'une ânesse ». Les apôtres étaient, il faut le reconnaître, un peu dépassés par l'ampleur de l'événement. Ils ne comprirent d'abord pas tout ce qui se passait. Mais lorsque Jésus revint glorieux de la mort, ils se souvinrent que tout s'était déroulé exactement comme les Écritures l'avaient prévu. La foule était surtout constituée de ceux qui avaient assisté à la résurrection de Lazare, d'où le nombre des gens qui en avaient entendu parler. On comprend que tout cela n'était pas du tout du goût des pharisiens. Vous voyez que vous n'y pouvez rien. Tout le monde s'est mis à la suivre. Dans cette foule bigarrée, il y avait quelques juifs grecs qui, eux aussi, avaient fait le voyage de Jérusalem pour la fête. Une délégation alla voir Philippe, originaire de Bethsaïde, en Galilée. « Seigneur, nous aimerions voir Jésus !» Philippe en parla à André, et tous les deux transmirent la demande à Jésus. On vivait des heures intenses. Ou bien Jésus ne comprit pas, ou bien il ne voulut pas comprendre. Le fait est qu'il partit à nouveau dans un long développement. « C'est l'heure où le Fils de l'homme doit être glorifié. Croyez-moi, si la graine de blé tombée en terre ne meurt, elle reste seule. Si elle meurt, elle porte beaucoup de fruits. Car quand on s'occupe trop de soi, on se perd. C'est en relativisant sa vie dans le monde qu'on la garde pour toujours. » Pour me servir, il faut me suivre, et là où je suis, vous serez aussi, et mon Père vous glorifiera. » Un sanglot sec sembla monter jusqu'à la gorge de Jésus. « Vous voyez, mon être se trouble. Est-ce que le moment de demander à mon Père de m'éviter ce qui se prépare ? Mais c'est précisément pour cela que j'ai vécu jusqu'à présent. Père, Jésus était redevenu serein, glorifie ton nom. » Jésus s'était à peine tu qu'une voix venue d'on ne sait où retentit. « Je l'ai déjà glorifié, et je le glorifierai encore. C'est un coup de tonnerre, disent les uns. Non, quelqu'un lui a parlé, disent d'autres. Cette voix n'était pas pour moi, mais pour vous, conclut Jésus. Ce monde va connaître son heure de vérité, son maître va être chassé, et moi, quand je serai élevé au-dessus de la terre, j'attirerai tout à moi. » En disant cela, il indiquait le genre de mort qui lui était réservé. Quelqu'un dans la foule prit la parole. « Notre loi nous enseigne que le Messie vivra toujours. Comment peux-tu dire que le Fils de l'homme sera mis en croix ? Et puis, qui c'est ce Fils de l'homme ?» Jésus lui répondit aussitôt. « La lumière est encore avec vous, mais pas pour longtemps. Marchez tant que vous y voyez avant que la nuit ne vous surprenne. » Quand on marche dans le noir, on ne sait pas où l'on va. Croyez donc en la lumière tant que vous l'avez, et vous deviendrez des fils de lumière. » Le dernier mot, il l'avait presque crié, et pendant que l'écho résonnait encore, il se retirait et alla se cacher. Malgré tous les signes accomplis devant leurs yeux, ils ne croyaient pas en lui. Le prophète Esaïe ne s'était pas trompé. « Seigneur, qui a cru à notre message ? À qui le Seigneur a-t-il révélé sa puissance ? » Non, ils étaient décidément incapables de croire. Esaïe dit ailleurs, « Dieu a rendu leurs yeux aveugles, il a fermé leur intelligence, comme ça ils ne voient ni ne comprennent rien. Et ils ne se retourneront pas vers moi pour que je les guérisse. » Esaïe parlait de Jésus, il en avait déjà vu la gloire. Pourtant, même parmi les chefs nombreux étaient ceux qui croyaient en Jésus. Seulement, à cause des pharisiens, ils n'en faisaient rien savoir, de peur d'être exclus de la synagogue, d'être excommuniés en somme. Et oui, ils préféraient l'estime des hommes à celle de Dieu. Jésus réapparut à l'autre bout de la cour où il s'était tenu avant de disparaître. Il lança dans l'air lourd. « Celui qui croit en moi, ce n'est pas en moi qu'il croit en fait, mais en celui qui m'a envoyé. Celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Comme la lumière, je suis venu au monde, et quiconque croit en moi ne reste pas dans le noir. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les suit pas, je ne le juge pas. Je ne suis pas venu pour juger, mais pour sauver le monde. » Celui qui me rejette, moi et mes paroles, se juge lui-même. Ce sont mes paroles qui le jugeront au dernier jour, car mes paroles ne viennent pas de moi. Le Père qui m'a envoyé, c'est lui qui m'a prescrit ce que je dois faire. Et moi je sais que ce qu'il ordonne entraîne la vie éternelle, ainsi que je dis. Je le dis comme mon Père m'a ordonné de le dire. Après cela, il se retira pour de bon.
La sensation, donc, pour cette semaine, c'était « apparaîtra-t-il, n'apparaîtra-t-il pas ? Est-il descendu de là-haut, c'est-à-dire de Galilée ? N'est-il pas descendu ? Va-t-il venir de Béthanie ? Ne va-t-il pas venir de Béthanie ?» Vous savez, c'est des questions sensationnelles qui se posent. Est-ce que le passage de Jésus a-t-il eu historiquement autant d'importance ? Nous n'en savons rien. Mais il est important pour nous de savoir que c'est ainsi que nous est présenté, puisqu'en descendant... C'est un véritable cortège qui s'organise et qui s'improvise. D'ailleurs, un ânon est là, il monte dessus, après qu'on l'ait jeté deux ou trois manteaux sur le dos de l'ânon, on arrache quelques branches, et on se souvient de l'hymne que l'on donnait lorsque le roi rentrait dans Jérusalem, qu'il vienne, qu'il soit béni au nom du Seigneur, celui qui vient, etc. Alléluia, alléluia, bien sûr. Et a lieu, donc, après cette entrée triomphale, dont on sait qu'elle ne durera que quelques jours, la foule étant très, infidèle, il y a le premier sermon, j'allais dire, de la Semaine Sainte, le premier triduum, premier jour, les trois jours, le triduum, qui est l'affirmation, comme il l'a fait depuis l'aveugle-né, depuis Béthanie, le Fils de Dieu. Moi et mon Père, qui me voit, voit mon Père. Je suis le Fils de Dieu. Dieu est en moi, c'est lui qui me glorifie. Cette catéchèse se passe à travers des événements. La catéchèse se passe toujours à travers des événements. Une catéchèse qui est séparée de la vie, elle n'est que savoir, que données multiples que l'on peut mettre dans un ordinateur. Mais elle ne transforme pas la vie. Depuis trois événements, Dieu, Jésus, le Fils de Dieu, a transformé la vie d'un aveugle-né, a transformé la vie de quelqu'un qui était mort en le ramenant à la vie, a transformé le cœur d'une femme pour l'éternité. La foi ne se prouve que si elle transforme notre existence.
C'était une bonne nouvelle d'après Jean, Une traduction, transposition du père Vincent-Paul Toccoli. Daniel Chavy a prêté sa voix pour la lecture. Merci et à bientôt.